Hébreux chapitre 5, les versets 7 à 9. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. Au nom de Jésus. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'écouta à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et après avoir été rendu parfait, il est devenu la source d'un salut éternel et pour tous ceux qui lui obéissent. Amen. Je ne sais pas si vous saviez que les témoins de Jéhovah instrumentalisent ou utilisent ou manipulent ce genre de texte pour justifier et soutenir leur thèse que Jésus, le Fils, n'est pas égal au Père, puisqu'il est dit bien clair ici dans ce texte, il a obéi. Donc il n'a pas le même niveau que le Père. Ce mot obéissance, alors, nous laisserait aussi un peu perplexe à penser que finalement le Christ est soumis au Père. Et donc il serait inférieur au Père. Alors là, toute la notion de la Trinité est ébranlée. C'est pour cela que je vous dis, lisons bien le texte. Il est nullement mentionné ici que le Fils a obéi au Père. Mais il est dit, il a appris l'obéissance. C'est différent. Il y a une nuance. Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Tel est ce qui a été écrit. Je répète, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Cela signifie que cette obéissance est limitée dans le temps et dans l'espace, si vous lisez le verset 7. Je reprends le texte de tout à l'heure. Il dit « durant sa vie terrestre ». C'est très important cette partie-là. Donc c'est limité dans le temps et dans l'espace. Et lorsqu'il fut élevé auprès du Père, bien sûr, à son retour auprès du Père, il a retrouvé la perfection. C'est ce que l'Épître nous dit ici. Et si vous avez bien suivi la lecture dans l'Évangile de Jean, le moment de la glorification du Fils de l'homme est venu, dit l'Évangile de Jean. Donc il ne faut pas faire une interprétation superficielle en pensant que le Christ aurait été imparfait pendant un certain moment, parce qu'il y a aussi une hérésie qui dit le Christ a été imparfait, mais qu'avec le temps, il a acquis la perfection. Non. Il y a des théologies qui disent aujourd'hui que Jésus est devenu Dieu après sa résurrection. Mais avant cela, il n'était qu'un être humain. Ce que l'Épître aux Hébreux veut nous faire comprendre, c'est que le Christ a accepté volontairement de se vider et de perdre, je mettrai bien entre guillemets, provisoirement. Il a accepté de perdre provisoirement une partie de gloire et non de sa nature. Il n'a pas perdu sa nature de Dieu. Il a perdu une partie de gloire qu'il avait avec son Père. Et l'auteur a trouvé une belle expression, et je trouve que l'expression est juste, il a appris l'obéissance. Cela me fait rappeler une histoire, un film ancien d'un prince, le prince à New York, qui n'a pas voulu faire connaître sa vraie identité à son entourage quand il est venu à New York, dans le but de trouver une épouse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dû apprendre à vivre comme un simple citoyen. Pourtant, c'est un prince. Il a travaillé comme un simple employé, comme un technicien de surface. Mais cela ne change rien à sa nature de prince. Mais pour un court moment, il a pris ce statut pour arriver à son objectif, épouser une femme. Et moi, je prends cet exemple. Le Christ a appris à obéir, même s'il est le maître de l'univers. Dans Philippiens chapitre 2, verset 6, on connaît très bien ce verset. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Alors c'est clair, depuis toujours et pour toujours, il est et il restera égal au Père. Mais quand il fut sur cette terre, il s'est dépouillé de cette condition divine pour le salut de l'homme. Je dis bien pour le salut de l'homme. Alors le Christ se mettait en danger. Il a quitté son confort et a abandonné sa zone de confort pour notre salut. Alors là, chers amis, nous sommes encore dans la période du carême. Pour nous, les protestants, nous ne privons pas de nourriture pour célébrer le carême, non. Mais pour nous, le carême, c'est un moment crucial qui nous incite à penser aux autres. Cela implique beaucoup de choses en se basant avec l'éthique de Jésus que nous avons aujourd'hui. Quitter sa zone de confort, prendre des risques pour l'autre, se mettre en danger s'il le faut, pour le salut de nos frères et sœurs. Voilà le message qui nous a été donné. Vous imaginez le Christ qui a quitté son trône, qui a quitté son royaume, et tout le monde pouvait le taper dessus. Devine qui est-ce qui t'a tapé. Les gens l'ont craché sur la figure. Voilà la prise de risque. Mais il a fallu le faire pour te sauver. Regardons la vie des missionnaires qui ont quitté leur pays. Rappelez-vous, à un certain moment, il est utile, je crois, d'apprendre aussi, c'est un manque qui existe dans les églises, les histoires missionnaires. Rappelez-vous des missionnaires qui ont quitté leur pays, leur famille, pour aller proclamer, évangéliser, en sachant que peut-être et probablement ils ne reviendront plus jamais chez eux. Beaucoup sont enterrés quelque part en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Ils ont quitté un jour leur pays, ils ne sont plus revenus pour le salut de l'autre. Dans l'histoire du protestantisme, combien de personnes ont beaucoup perdu des membres de leur famille, leurs biens en confessant leur foi, etc., etc. Mais pour nous aujourd'hui alors, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour apporter l'évangile de Jésus-Christ dans le monde et dans la société où nous sommes? Jusqu'où? C'est une bonne question. On ne va pas juste soupirer parce que le Christ a souffert, mais pour moi, si je me base à partir de cette éthique de Jésus-Christ, quelle est ma place dans le monde? Le verset 9, il est dit: il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Alors ce verset fait écho à ce qui est écrit dans Romains chapitre 5, verset 15. Voilà ce qui est dit dedans. « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Amen. L'apôtre Paul parle du premier Adam et du dernier Adam. Le premier Adam, c'est Adam. Le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Par le premier Adam et par sa désobéissance et son insoumission, l'harmonie avec le Créateur et ses créatures ont été brisées. Cependant, avec l'obéissance du dernier Adam, Jésus-Christ, sa soumission volontaire nous a donné la vie éternelle. Cette obéissance du Fils n'est pas du tout facile. C'est pas facile. Elle n'était pas si évidente, cette obéissance, car cela a été fait, rappelez-vous, lisez bien ce qui a été dit tout à l'heure, cette obéissance a été faite dans la prière, dans le cri et dans les larmes. Trois formes de prière chez les Juifs. Et si vous regardez bien, d'après un dénommé Spike qui disait, constatez la formulation du verset. Au verset 7, il a relevé trois sortes de prières et chacune est plus forte que la précédente. Prière, cri et larmes. De plus en plus intense. Au départ, une simple prière, ensuite des cris et à la fin, des larmes. Alors, je vais vous poser une question. Cela évoque quoi pour vous, ces trois choses? Prière, cri et larmes, en lien avec le Christ, bien sûr. Ces cris et ces larmes du Christ nous rappellent les moments à Gethsémané et à la croix. C'est précisément à ces deux moments, à Gethsémané et à Golgotha, qu'on voyait explicitement l'obéissance du Christ face à la souffrance. À Gethsémané, il avait dit dans sa prière, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. » Et là, avec un cri intense, « Mais toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » C'était un dur combat. N'oubliez pas Gethsémané, chers frères et sœurs en Christ. Ne courez pas tout de suite à la résurrection du dimanche de Pâques. Gethsémané, le Fils de Dieu, s'est lutté contre lui-même. Il a transpiré de sang parce qu'il savait ce qu'il allait subir. Et à Golgotha, et là aussi, il a encore crié avec des larmes. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà le prix à payer pour notre salut. Ne l'oublie jamais que ton salut lui a coûté très cher. La notion d'obéissance et de soumission en Christ, alors, a un sens vraiment différent par rapport à ce qu'on connaît chez les autres religions. Dans les autres religions, si vous allez partout dans le monde, dans ces religions-là, ils obéissent à leur Dieu car ce sont des exigences des dieux qui veulent marquer leur autorité sur leur sujet. C'est tout. Quelle que soit la forme de religion. Mais avec ce que le Christ a vécu, sa soumission nous donne une idée très différente. Une soumission ayant pour but le salut pour l'autre. C'est complètement différent, la notion d'obéissance. Une obéissance qui n'est pas centrée sur nous-mêmes pour attirer la faveur de Dieu, mais une obéissance au bénéfice des autres. Et rappelons-nous de ce que Jésus avait dit à Pierre, « Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas te manquer. » Et la suite, « Et quand tu seras revenu à moi, » qu'est-ce que Jésus lui a dit ? Fortifie tes frères. La repentance n'est pas juste le moment où tu verses des larmes et que tu dis « Pardonne-moi Seigneur ». La vraie repentance, c'est qu'après, tu dois fortifier tes frères. Donc l'obéissance qui se tourne vers l'autre, mais pas centrée sur moi-même. La soumission ou l'obéissance du Christ n'est pas vis-à-vis de son Père, parce que le Père lui a imposé cela et qu'il doit le suivre. Une soumission volontaire pour que le salut soit partagé au plus large nombre de personnes. L'obéissance alors, chers frères et sœurs en Christ, n'est autre qu'un acte d'amour, un acte de charité. Dans le premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 5, il est dit « De même, jeunes gens, soyez soumis à ceux qui sont plus âgés que vous, et vous tous, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres. » Là, il y a un recadrage sur la notion d'obéissance. Et celui ou celle qui sert son frère, celui ou celui qui sert sa sœur, ne devrait pas se sentir inférieur ou écrasé. Car le verset 9 parle de Jésus qui a été élevé à la perfection, celui qui obéit et celui qui est parfait, celui qui se met au service de l'autre. Ce n'est pas une marque d'infériorité. La soumission ou l'obéissance du Christ est la preuve de sa perfection, est la preuve de sa pureté, une obéissance parfaite, pure, sainte, parce que c'est une obéissance désintéressée. Et que notre obéissance à nous aussi soit pure et parfaite, sans un sentiment de contrainte ou d'écrasement, mais une obéissance jusqu'à la mort pour le salut des autres. Et pour terminer, rappelez-vous ce qui est dit dans Romains chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu qui lui est agréable. » C'est là le véritable culte. C'est quoi le véritable culte ? Vous offrir vous-même en sacrifice vivant pour les autres. Amen.